Ce matin, nous allons poursuivre notre voyage à travers l'épître, pas l'épître, mais le livre de Josué. Le titre du message, c'est « Allez-vous devenir comme Caleb? » Nous allons lire les passages dans Josué 14. On ne lira pas tout le chapitre, bien que la prédication va se comporter concernant tout le chapitre, mais on va lire seulement les versets 11 et 12. Donc, Josué 14, les versets 11 et 12. « Je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force maintenant que j'en avais alors pour le combat, comme pour sortir ou revenir. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé ce jour-là, car tu as appris ce même jour qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a de grandes villes fortifiées. Que l'Éternel soit seulement avec moi et je les déposséderai comme l'Éternel l'a dit. » Prions. Père éternel, encore une fois, Seigneur, nous venons devant toi, notre Dieu, pour te demander les lumières de l'Esprit Saint, Seigneur, afin que nous puissions comprendre ta parole, et non seulement la comprendre, Seigneur, mais la mettre en pratique dans nos vies, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, pour l'œuvre que tu as faite, Seigneur, cette œuvre qui est bénéfique pour nous, qui est salutaire, Seigneur, pour nous, Seigneur, et on te demande, Dieu Tout-Puissant, d'être avec nous, Seigneur, ce matin, et qu'on puisse être attentif, Seigneur, à ce que tu veux nous dire, dans le nom de Jésus. Amen. Lorsqu'on débute, qu'on entre dans le livre de Josué, on est à un moment critique dans l'histoire de la rédemption. La question qui pourrait être posée, iront-ils, en parlant des Israélites, en avant et se faire un chez-soi, se faire un home, une maison dans le pays de Canaan, ou patauger, hésiter dans l'incrédulité, et continuer de vivre comme des nomades, errant dans le désert pour qui sait combien de temps encore. Mais lorsqu'on fait un retour en arrière à ces 40 années d'errance dans le désert, nous pourrions à tout le moins dire ceci. Ce n'étaient pas des années perdues. Dieu ne perd jamais son temps. Ne devrions-nous pas apprendre de nos erreurs, de nos épreuves, de nos difficultés? Cela explique pourquoi le prédicateur britannique Charles Haddon Spurgeon a dit « Il y a une chose de mieux que la santé, et c'est la maladie. Oh, combien je dois à mes années de maladie! » Fin de la citation. Sans aucun doute, ces 40 années dans le désert furent des années marquées par l'affliction, par les désappointements, le chagrin, la douleur. Et nous ne devrions pas aussi oublier ceci, que toute cette génération du désert, tous ceux qui étaient sortis avec Moïse du pays d'Égypte et qui avaient parcouru le désert et qui ont quitté cette Égypte, et qui étaient âgés de plus de 20 ans, sont tous morts dans le désert. Et il y a eu seulement deux hommes qui ont survécu à cette génération, un homme du nom de Josué et un autre homme du nom de Caleb. Même Moïse est mort dans le désert, même Moïse. Vous vous rappellerez comment Josué débute sous cette note très sombre dans Josué 1, le verset 1. Il nous est dit « Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué. » Moïse est mort. Nous pouvons imaginer cette panique et cette peur parmi le peuple d'Israélites qui s'est installée dans le cœur et l'esprit de la plupart de ces gens-là. Moïse était le grand leader, le grand conducteur du peuple. Comment pouvons-nous continuer monter contre ces géants et ces grandes cités fortifiées comme Jéricho. Il aurait été très facile à ce point-ci de mettre simplement les freins et de dire simplement « Non, nous ne pouvons pas continuer. » La laideur du péché d'incrédulité pourrait encore se manifester. Mais ce n'est pas ce qui est arrivé. Et alors que nous lisons du chapitre 1 au chapitre 11, nous voyons le peuple de Dieu se lever sous la conduite de Josué, expérimentant victoire après victoire, conquête après conquête. Dans le chapitre 12 de Josué, vous avez une description de tous les rois qui ont été défaits sur le côté est du Jourdain. 31 rois y sont mentionnés. Comme il a été dit avant, le livre de Josué est essentiellement en termes de victoire et de conquête, non pas en termes de défaite et d'insuccès. Il met réellement en évidence, en relief, la vie chrétienne. C'est un livre sur la foi et non pas sur l'incrédulité. Et les deux hommes qui sont placés devant nous comme étant pour nous des exemples de foi sont Josué et Caleb. Nous avons vu Josué au chapitre 13. Vous vous rappellerez qu'il nous est dit d'entrer au verset 1, au chapitre 13, verset 1. Josué était vieux, d'un âge avancé. L'Éternel lui dit alors, « Tu es devenu vieux, tu es d'un âge avancé, et le pays qui reste à occuper est très grand. » Donc, Josué a vécu une vie de foi. Josué, selon certains commentateurs, serait tout près de entre 90 et 100 ans. Et nous apprenons ici qu'il ne peut plus faire ce qu'il faisait avant. Il ne peut plus combattre sur le champ de bataille. Typiquement, ce qui arrive dans une situation comme celle-ci, les personnes âgées sont mises de côté, à tout le moins dans notre société. Et c'est probablement ce qui arriverait, une soirée de party, un party de fin de vie, une soirée de retraite, et de dire à Josué, tu peux te retirer pour faire ce qui te plaît, pour faire de la place aux jeunes et prendre ce relax. Mais ce n'est pas ce que Dieu lui dit de faire ici. En fait, ce qui semble étrange dans ces temps modernes, Dieu ne lui dit pas de prendre sa retraite. Non, Dieu fait quelque chose de différent ici, n'est-ce pas? Il dit à Josué, « Je veux que tu fasses une transition en termes de ta vocation ou de ton occupation. » Il est vrai que Josué ne peut plus prendre le commandement sur le champ de bataille, mais tu peux encore prendre le leadership de surveillance de la nation. Ainsi, Josué est mis en charge de la répartition du pays. Ainsi, lorsque nous venons au chapitre 13 et 14, nous pourrions dire que la plus grande partie du sale travail, entre guillemets, là, a été faite. Les batailles majeures ont été combattues, les ennemis ont essentiellement été conquis. Les cités et les forteresses ont été prises. Maintenant, il est temps de diviser le pays et de retourner à une routine plus normale de la vie de tous les jours. Donc, pour les quelques 9 chapitres suivants, nous lisons concernant la nation d'Israël recevant son héritage du pays. Et sans conteste, c'est pour Josué sa dernière tâche. Cela pourrait être sa tâche la plus difficile. Comme vous le savez, cela arrive souvent dans une famille où un oncle ou un parent ou une tante riche décède et laisse un héritage, beaucoup de chamaillerie, de disputes, beaucoup d'amertume peuvent prendre place. Le potentiel pour les ruptures, les désunions est énorme. La Bible nous avertit qu'une nation ou une maison divisée contre elle-même ne peut tenir. Il est certain que Josué avait certaines craintes que ceci pourrait très bien arriver. Pourrons-nous tenir? Serons-nous éclatés en 12 morceaux de tribus? Sans aucun doute, pour aider à assurer la paix et l'unité, Josué a suivi les ordres de Dieu. Et il utilise cette méthode du tirage au sort. Nous le voyons ici dans Josué 14, 2, il nous est dit « On tira au sort leur héritage ». De verset 15 du même chapitre, « Le lot pour la tribu des fils de Juda ». Au chapitre 16, de verset 1, « Le lot qui échut aux fils de Juda ». Et au verset 17 du même chapitre 16, « Il y eut un lot pour la tribu de Manassé ». Mais pourquoi le tirage au sort? Eh bien, premièrement, il souligne l'autorité et la souveraineté de Dieu. Dieu leur a commandé longtemps avant qu'ils n'entrent dans le pays promis, que le pays sera divisé par le tirage au sort. On voit ça dans le livre des Nombres au chapitre 26. Dans Proverbe 16, il nous est dit que Dieu est en contrôle du tirage au sort. Ce n'est pas une affaire de chance. Dieu démontre sa souveraineté dans cette affaire de tirage au sort. Mais de plus, dans Proverbe 18:18, nous y lisons « Le sort fait cesser les querelles ». Et c'est probablement pourquoi il y a le tirage au sort. Lorsque nous ouvrons dans le chapitre 14, le tirage au sort et la répartition du pays débutent par cette méthodologie. La première tribu qui y est mentionnée est Juda, et l'homme qui représente cette tribu est Caleb. Nous nous rappelons de Caleb par cette mission d'espionnage dans Nombres 13 et 14. Ce sont seulement Josué et Caleb qui ont donné un rapport favorable positif. Caleb est un autre exemple de foi, tout comme Josué. Donc ce matin, considérons ces trois aspects. La vigueur physique dont jouit Caleb, la foi exceptionnelle déployée par Caleb et la riche bénédiction accordée à Caleb. Donc notre premier point d'entrée, la vigueur physique dont jouit Caleb. Remarquons encore au chapitre 13 et 14 la juxtaposition de ces deux grands hommes de foi, Josué et Caleb. Les deux ont bien servi Dieu dans cette nation. Tous les deux maintenant sont rendus avancés en âge. Le verset 1 du chapitre 13 nous le dit concernant Josué. Il en est ainsi de Caleb. Certains avancent qu'ils étaient du même âge, ou à peu près du même âge. Selon toute vraisemblance, Caleb était un peu plus jeune. Avec Josué, nous ne pouvons que le dire approximativement. Mais avec Caleb, nous le savons parce qu'il nous le dit au chapitre 14, au verset 10. « Et maintenant, me voici aujourd'hui âgé de 85 ans. » Nous y notons, n'est-ce pas, ici un sens de gratitude, qu'il est reconnaissant pour sa longévité. Au début du verset, il dit « Maintenant, voici que l'Éternel m'a fait vivre, comme il l'a dit. » Dieu donne la vie et c'est lui qui la soutient. Dans Actes 17, 28, l'évangéliste Luc nous dit « En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Job dit, les jours de l'homme sont déterminés. Dieu a décrété le nombre de mois d'années que nous vivrons. Chaque vie humaine a été décrétée ou planifiée. Dieu a décrété combien de temps vous et moi vivrons. Nous savons par le psaume 90 que la vie approximative sur la terre, au verset 10, il nous est dit « Le nombre de nos années s'élève à 70 ans, et si nous sommes vigoureux, à 80 ans. » Maintenant, il y a des exceptions. Certains hommes meurent plus jeunes, certains plus vieux. Et antérieurement au déluge, ils vivaient encore plus vieux. Lorsque nous ouvrons dans Josué 14, ce qui nous saute aux yeux est un vieil homme. Caleb a l'âge de 85 ans. En regardant à la norme mentionnée au psaume 90 qu'on vient de lire, il y a eu un bonus ici. Ainsi, il est reconnaissant pour la bonté de Dieu, lui donnant ses longues années. Ce qui est si inhabituel ici est la vigueur, la force de cet homme âgé de 85 ans. À cet âge, les personnes sont dans un établissement de personnes âgées ou assis dans une chaise roulante. Au verset 11, il dit « Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. » Donc, il est encore vigoureux comme au jour où Moïse l'envoya 40 ans plus tôt. « J'ai autant de force maintenant que j'en avais alors pour le combat comme pour sortir ou revenir. » Rappelons-nous que Josué ne pouvait aller à la guerre. Josué, d'un âge avancé, n'était pas capable d'aller sur le champ de bataille. Caleb, lui, le peut. Il est prêt à y aller. Il est enthousiaste autant au milieu des années 80 qu'il l'était à 40. Il a une bonne santé et est vigoureux. Nous ne pensons pas ici qu'il est vantard. Il n'est pas de ces gens qui, rendus à un âge avancé, refusent de le reconnaître. Caleb est plus grand que cela. Il est sage et il veut vraiment servir Dieu. Il est reconnaissant qu'il possède à son haut niveau la force et la vigueur à l'âge de 85 ans. Mais si vous voulez vraiment comprendre l'homme Caleb et saisir ce qu'il nous dit, nous devons considérer deuxièmement la foi exceptionnelle déployée par Caleb. Donc, c'est notre deuxième point. Généralement parlant, l'âge avancé amène la détérioration extérieure. L'homme extérieur se détériore. Et 2 Corinthiens 4, 16 nous dit « Mais l'homme intérieur se renouvelle. » C'est très positif. Mais en termes de santé, alors que nous avançons en âge, généralement, il y a une déclinaison de la santé, des forces. Cela n'est pas arrivé à Caleb. Mais qu'en est-il de la condition spirituelle de quelqu'un? C'est ce qui est réellement important ici. Nous ne devrions pas penser que parce que quelqu'un est un chrétien, lorsqu'il devient avancé en âge, qu'il soit nécessairement plus fort spirituellement. Nous pouvons assumer, n'est-ce pas, qu'à chaque âge de la vie, nous faisons face à la tentation, aux vulnérabilités. Et l'âge avancé a ses propres tentations et ses propres vulnérabilités. L'âge avancé peut être un temps dans lequel nous déclinons spirituellement. Les gens âgés peuvent dériver dans l'égoïsme. Peut-être en connaissez-vous, peut-être avez-vous déjà entendu cela. Peut-être c'est ce qui se cache derrière cette mentalité de retraite qui est tellement attrayante dans ce temps dans lequel nous vivons. Les gens âgés peuvent devenir cyniques et amers. La vie avec ses souffrances, ses douleurs, ses peines, ses désappointements peuvent laisser des traces. Nous pouvons voir, je crois, quelque chose de cela dans l'homme âgé, Job, lorsqu'il dit dans Genèse 42, verset 36, « Toutes ces choses sont contre moi. » Il est vieux, certainement qu'il a eu un temps difficile, mais toutes ces choses sont contre moi. Est-ce que c'est si relevé? Est-ce que c'est si prenant que cela? Cela ne résonne pas comme la voix de la foi. Cela sonne plutôt comme de s'apitoyer sur son propre sort. Mais nous n'entendons pas cela de la part de Caleb, n'est-ce pas? À l'âge de 85 ans, il n'est pas affligé, il n'est pas gémissant. Nous devrions penser à cela, frères et sœurs, alors que nous avançons dans ces âges séniles. Quel genre de personnes âgées voulons-nous être? Quel homme, quelle femme de personnes âgées voulons-nous être? Quel genre de personne êtes-vous? Quel genre d'homme ou de femme êtes-vous? Comment vous gardez-vous de devenir comme ces stéréotypes de personnes âgées cassantes? Quand je dis cassantes, certainement que vous saisissez le sens que cela veut dire. Eh bien, je crois que la réponse est trouvée juste ici. La clé est la grâce de la foi. Caleb démontre une foi qui est grande, qui est forte. Et voici une démonstration ou une forme ou une définition de sa foi. Qu'est-ce que nous pouvons dire de la foi de Caleb et pourquoi pouvons-nous dire, la décrire que c'est une foi qui est grande, qui est forte? Quatre qualificatifs, si on peut dire, ou quatre démonstrations concernant cela. C'était une foi qui était persévérante. Elle lui a permis, elle l'a rendu capable de maintenir la course à travers le temps, les longues étapes à travers les années du désert. Ici, dans Josué 14, il nous ramène dans quelques souvenirs, quelques perspectives des événements qui sont arrivés quelques 45 ans passés, lorsqu'il était âgé de 40 ans. Dans les versets 7, il dit « J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadesh-Barnéa pour espionner le pays, et je lui fis un rapport avec la droiture de cœur. » Au verset 8, « Mes frères qui étaient montés avec moi firent perdre courage au peuple, mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. » Caleb était un homme qui suivait déjà le Seigneur. Il est allé à l'encontre du courant, de la masse. Il s'est tenu debout. Il n'a pas vacillé, il a persévéré. Et lorsque nous le voyons ici, dans Josué 14, Caleb persévère encore dans la foi. Caleb ne chancelle pas en dépit des difficultés et des défis en face de lui. Au verset 12, il dit « Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé ce jour-là, car tu as appris ce même jour qu'il s'y trouve des Anakims et qu'il y a de grandes villes fortifiées. » Les Anakims, c'était ces géants de quelque 9 pieds de hauteur. Ces obstacles qui étaient là, ils sont encore. Elles existent encore. Les Anakim, ces géants, qui étaient là il y a 45 ans et qui faisaient peur à tous, qui intimidaient tout le monde, n'ont pas intimidé Caleb. Mais ces obstacles sont encore là. Et Caleb est prêt à s'en occuper, est prêt à accepter, à relever le défi. Au verset 11, il dit, « Je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force maintenant que j'en avais alors pour le combat, comme pour sortir ou revenir. » Rappelons-nous que Josué ne pouvait plus aller à la guerre. Josué, en âge avancé, n'était pas capable d'aller sur le champ de bataille. Caleb, lui, le peut. Il est prêt à y aller. Il est enthousiaste, autant au milieu des années 80 qu'il l'était à 40. Il a une bonne santé et est vigoureux. Nous ne pensons pas... Bon, je pense que je suis... Je me suis trompé de feuille. Okay, donc, je recontinue. Ici, dans Josué 14, Caleb est décrit comme un homme qui suit fidèlement le Seigneur. Et trois fois, dans les versets 7, 8 et 12, il nous est mentionné cela. Il est un homme de foi, dévoué. Il a persévéré. Il n'est pas devenu cynique. Il ne vit pas dans le passé. Il n'a pas de peur. Il n'a pas peur de ce qui est devant lui, de ce qui est le futur. Non, il est toujours confiant. Il continue de croire en Dieu. Il est toujours persévérant à l'âge de 85 ans. Il a une grande foi. Il a une voix qui est persévérante. Notre deuxième sous-point, il a une foi qui est audacieuse. 45 ans auparavant. Il est encore seul et contre la majorité alors que tout s'écroule. Il se tient ferme. Cela n'était pas facile, la pression était grande. Mais Caleb était préparé à se tenir seul et voici pourquoi. Parce que la foi croit en Dieu, en la présence de Dieu, en la puissance de Dieu. La foi nous rend audacieux, elle nous rend zélés, parce que la foi est comme Dieu est grand. La foi est comme Dieu est grand, comme la grandeur de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit dans Proverbes 28, 1, « Les justes ont confiance comme un lion, comme un jeune lion. » Lorsque tous se sauvent, les justes se tiendront debout. Même si cela signifie se tenir seul. C'est facile de suivre la foule, n'est-ce pas? D'aller dans le sens du courant. C'est facile de dire oui lorsque tout le monde dit oui. C'est très difficile de dire non. Vous vous sentez isolé. Les gens froncent les sourcils en opposition au sourire qu'on pourrait avoir si on suit le mouvement. Mais Caleb, à ce moment-là, s'est tenu sur ses bases et il continue de se tenir maintenant. Il regarde l'ennemi dans les yeux et ne s'enfuit pas. Il saisit le problème. La foi n'ignore pas les problèmes qui existent, mais elle voit que Dieu est plus grand que les problèmes. La peur magnifie, exagère nos problèmes, alors que la foi permet que nous voyons nos problèmes à la lumière de Dieu. Elle nous fait voir combien Dieu est grand. Caleb a une grande foi, une foi persévérante, une foi audacieuse. Mais aussi, Caleb a une foi qui est sacrificielle. Caleb aurait pu choisir la voie la plus facile. Il aurait pu se cacher derrière son âge, dire « Je suis âgé de 85 ans, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai été fidèle longtemps, j'ai combattu ma part de bataille, c'est le temps maintenant de... Pourquoi pas m'installer dans la belle vallée fertile de Canaan? Je n'ai pas besoin de stress, j'ai pas besoin de peiner. Pourquoi à ce stade-ci de ma vie m'embarquer dans un autre défi? Prendre d'autres risques, mettre ma vie en danger. Mais l'homme vit par la foi, n'est-ce pas? Il réalise qu'il y a quelque chose de plus important que de vivre une vie confortable. Il ne rêve pas ici d'une vie facile, aisée, mais il rêve d'avancer avec courage. Il veut servir Dieu. Il aime Dieu. Remarquez comment il parle de Dieu dans les versets 7, 8, 9, 10 et 12. Dans ces versets, l'accent, le focus est mis sur Dieu. Il ne regarde pas, ne s'attend pas à une médaille, à recevoir une médaille, ne cherche pas à être un héros. Mais tout est au sujet de Dieu, la gloire de Dieu, le nom de Dieu, les desseins de Dieu, les plans de Dieu. De plus, cet endroit appelé Hébron, qui est mentionné dans les versets 13 et 14, est un endroit qui est très significatif dans l'histoire de la rédemption. C'est l'endroit où le patriarche Abraham fut enterré, de même que Sarah. Les os de Joseph furent enterrés là aussi. Et c'est l'endroit où le roi David fut oint comme roi. Il veut cet endroit pour la gloire de Dieu. La foi de Caleb, elle est grande. Pourquoi pouvons-nous dire cela? Eh bien, c'est une foi qui est persévérante, audacieuse, sacrificielle. Mais nous pouvons dire aussi que Caleb a une voix qui est bien ancrée. Et où est-ce qu'elle est ancrée, cette foi? Eh bien, il est clair ici où elle est ancrée. Le fondement, la base, l'objet de sa foi n'était pas en lui-même. Ce n'était pas en sa fidélité passée. Ce n'est pas non plus dans ses progrès physiques, mais c'est en Dieu. Particulièrement, ce qui est mis de l'avant ici, c'est sa foi en les promesses de Dieu. Voyez les versets 6b, où nous est dit « Tu sais, toi, ce que l'Éternel a déclaré à Moïse. » Au verset 10, « Maintenant, voici que l'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit. » Donc, et il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse. Et au verset 12, « Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé ce jour-là. » Caleb continue de maintenir ce que Dieu lui a dit, ce qu'il a dit à Moïse et ce qu'il a promis. Les paroles ou les promesses de Dieu sont les bases, le fondement de sa foi. Si vous lisez Nombre 14, 24, vous réalisez que Dieu a promis à Caleb et à sa descendance un héritage du pays. Ainsi, Caleb n'a pas oublié la promesse. Et Caleb, maintenant, tient ferme à ses promesses, 45 ans plus tard. Tu as promis. Cela explique sa foi, l'énergie de sa foi. Donne-moi cette montagne que tu as promis. Comment utilisez-vous les promesses de Dieu? Pierre nous décrit les promesses de Dieu que nous avons en Christ comme les plus précieuses et les plus grandes, dans 2 Pierre 1:4. Pensez-vous vraiment que vous pouvez vivre la vie chrétienne sans tenir, sans saisir les promesses? Lorsque nous lisons les Puritains, ils mettent l'emphase sur les promesses. Des livres ont été écrits sur les promesses. Combien de victoires pouvons-nous remporter sans les promesses? Combien de batailles perdons-nous parce que nous ne tenons pas ferme aux promesses? Combien de montagnes faillissons-nous d'escalader, de gravir et de conquérir à cause de l'incrédulité? Nous ne tenons pas ferme les promesses et ne les utilisons pas. Nous avons besoin de les utiliser lorsque nous faisons face à la tentation, lorsque nous luttons, combattons avec nos péchés. Il y a des promesses que Dieu nous a données. Comme Caleb sur le champ de bataille, nous combattons contre Satan, contre le monde, contre notre propre chair. Et nous avons des promesses. Nous avons la promesse que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est une promesse. Nous avons la promesse qu'aucune tentation n'est au-delà de nos forces. Cela fait partie du décret de Dieu et que toutes choses sont pour notre bien. Nous avons la promesse que Jésus-Christ intercède pour nous et qu'il ne laissera pas le diable prendre contrôle de vous. Nous avons la promesse que si nous résistons au diable, il va s'éloigner de nous. Nous avons la promesse que la puissance de Dieu nous gardera de toute chute. C'est ce qu'il nous est dit dans Jude 24. Une des raisons pourquoi nous avons besoin de lire notre Bible, de la mémoriser, de la méditer, est le fait que nous pouvons garder en mémoire et dans notre cœur les promesses de Dieu pour que nous soyons équipés pour la bataille et revêtir toute l'armure de Dieu. Tout ce qui nous est mentionné dans Éphésiens 6, l'armure du chrétien. Le diable est trompeur, séducteur, menteur. Il est fort, rusé. La chair est constamment en lutte contre l'esprit. Elle est agressive, militante. Elle lâche pas. Nous devons tenir ferme aux promesses. Dieu a promis de nous donner l'esprit pour nous aider. Jean pouvait dire dans 1 Jean 3:9, « Quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché. » Il ne dit pas que nous sommes parfaits, mais il dit que nous ne devrions pas avoir de péché chronique établi, des patterns, et de ne pas avoir la victoire sur nos péchés. Si nous péchons, nous avons la promesse de restauration pour notre âme, le psaume 23. Si nous confessons nos péchés, il nous pardonnera nos péchés, 1 Jean 1:9. Mais nous devons prendre avantage des promesses dans les temps de tentation, de péché. Pour combattre, nous devons tenir sur les promesses d'aide, de grâce. Que Dieu ne nous délaissera pas et ne nous abandonnera pas. Caleb est un modèle à suivre. Nous ne serons peut-être pas aussi forts physiquement que lui à 85 ans, mais nous pouvons l'être aussi en termes de foi. Une foi persévérante, une foi audacieuse, une foi sacrificielle, une foi bien fondée. Voici la question encore. Quel genre de personne âgée, homme ou femme, voulez-vous être? Quel genre d'homme ou de femme êtes-vous maintenant? Cela pourrait être la question de répondre, ça pourrait être la manière de répondre à la question. Si vous êtes plus jeune, vous pourriez vous demander si cette question est pertinente, est à propos. Je ne suis pas rendu là. Je ne suis même pas près de 85 ans. Je n'y pense même pas. Mais lorsque nous arrivons à 50, 60, et peut-être même avant, nous commençons à y penser. Mais cela s'applique que vous ayez 85 ans ou pas. Et je vous dis pourquoi. Parce que ce que Caleb est à 85 ans peut s'expliquer réellement que par ce que Caleb était lorsqu'il avait 40 ans. C'est relationnel. Ça, c'est pas coupé au couteau. À un moment donné, tu tombes à 85 ans, puis t'es tout ça d'un coup. Là. C'est pas un package qui nous arrive, qui nous tombe tout d'un coup. Là. Si vous ne remportez pas de victoire maintenant, pourquoi pensez-vous que vous remporterez des victoires alors? Si vous ne vivez pas par la foi maintenant, pourquoi pensez-vous que vous allez vivre par la foi par la suite alors? Si vous faites des compromis maintenant, si vous dites oui au monde maintenant, pourquoi pensez-vous que vous allez dire non ensuite, alors, dans 20 ans ou plus? Vous voyez ce que Caleb était à 40 ans explique qui il est à 85 ans. Quel genre d'homme, de femme serez-vous? Eh bien, cela dépend réellement, n'est-ce pas, sur ce que vous êtes dès maintenant. Quel genre de jeune homme, de jeune femme êtes-vous maintenant? Passez-vous du temps dans votre Bible maintenant? Priez-vous maintenant pour ses promesses? Combattez-vous contre le péché maintenant? Êtes-vous vainqueur sur le péché par le sang de l'agneau maintenant? Vous êtes ce que vous deviendrez. Ce n'est pas sans signification que quelques grands saints utilisés le plus par Dieu étaient influencés de façon significative en jeune âge. On pense à David, à Samuel, à Timothée, à Spurgeon, à Jonathan Edward. C'était des hommes qui ont été formés, modelés dans leur jeune âge. Ils ont mis leur confiance en Dieu dans leur jeune âge. C'était des hommes qui servaient Dieu dans leur jeune âge. Lorsqu'ils sont arrivés dans un âge avancé, ils servaient encore Dieu. La même fondation sur laquelle ils ont bâti à l'âge de 30 ans est la même sur laquelle ils s'appuyaient à 70 ans. Ce que vous êtes aujourd'hui, comment vous vivez aujourd'hui? Vivez-vous par la foi? Persévérez-vous dans la foi? Démontrez-vous une foi audacieuse? Votre foi est-elle fondée, établie sur les promesses de Dieu? Résistez-vous au diable? Êtes-vous vainqueur? Surmontez-vous le péché? Utilisez-vous les promesses de Dieu? Caleb a planté son drapeau à 40 ans et il continue de le planter à 85 ans. Il est un homme digne d'être imité. À 85 ans, il avait une foi biblique. Il veut encore escalader les montagnes. Il n'est pas timide, craintif. Il n'est pas recroquevillé, mais sa foi est encore forte, croyant en la parole de Dieu, en les promesses de Dieu. La vigueur physique dont jouit l'homme Caleb, la foi exceptionnelle déployée par Caleb, et finalement, plus brièvement, la riche bénédiction accordée à Caleb. Caleb a joui d'une vie longue. C'était une bénédiction de Dieu. Il a eu une vie utile, productive. Il est comme l'homme du psaume 1 au verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas. Ici, il nous est dit qu'il a reçu cet héritage qui lui a été accordé, le territoire d'Hébron. Dans Josué 15, 14, il nous est dit « Caleb en déposséda les trois fils d'Anak ». Donc, il eut du succès. Cet acte de foi prouve qu'il eut du succès. Il a vécu une vie victorieuse. Il a vécu une vie fructueuse, une vie digne d'être vécue. Vous ne pouvez pas en dire que c'est une vie en perte de temps. On peut se demander combien de personnes, lorsqu'ils atteignent les 50, 60, 70 et même plus, doivent regarder en arrière avec beaucoup de regret. Si seulement j'avais écouté mes parents, si seulement je n'avais pas satisfait ma chair dans la drogue, si seulement je m'étais éloigné de cette tentation particulière, de cet homme ou de cette femme, si seulement je m'étais marié dans le Seigneur, si je ne m'étais pas mis sous le joug comme un incroyant, si seulement je m'étais tenu debout dans ce temps de tentation, si seulement j'avais dit non à mes amis. Et 20, 30, 40 ans plus tard, ils vivent encore dans le regret. C'est triste, c'est tragique, parce qu'au lieu d'avoir des vies fructueuses, ils se voient comme des vies perdues. Au lieu de gravir des montagnes, ils finissent par être ballottés dans les vallées et s'ancrer, se fixer dans de sombres cavernes. Caleb devrait être un enthousiasme pour nous tous à vivre pleinement pour le Seigneur, de vivre des vies dévouées, d'être prêt à se tenir, de faire et d'aller seul, de suivre le Seigneur pleinement, même si cela nous coûte, avec nos amis, avec la popularité. Ne devrions-nous pas oublier aussi ceci? Caleb nous pointe aussi vers Jésus-Christ. Il est un homme qui a vécu par la foi, c'était Jésus. S'il est un homme qui a persévéré, c'était Jésus. S'il est un homme qui a démontré une foi audacieuse, c'était Jésus. S'il est un homme qui a eu une foi conquérante, c'était Jésus. Il a enduré la croix. Et il a gravi la montagne, n'est-ce pas, le calvaire. C'est là qu'il est mort. Il est mort pour nous. Ainsi, Caleb nous pointe vers l'ultime, le plus grand, Jésus-Christ. Si nous sommes pour vivre une vie comme Caleb jusqu'à l'âge avancé et que Dieu nous donne ses 85 ans, eh bien, nous devons constamment regarder à Jésus-Christ. Il est le plus grand modèle pour nous. Il est celui vers qui nous devons porter nos regards et persévérer et combattre le combat de la foi. Prions.